Alors ça s'appelle ombre de récit, point de suspension, corps de récit. Et le sous-titre, c'est le récit aux deux visages, pour bien coller avec l'hybride. Pour ce qui est de mon texte, je ne vais pas le lire parce qu'il est long, je vais l'expliquer simplement. Mais permettez qu'avant d'expliquer ce que je vais expliquer, que je donne quelques précisions d'abord. Comment je vais structurer mon texte? Dans un premier temps, qui sera pas vraiment un premier temps parce que ce sera tout le temps, et ce sera ce vrai temps de mon texte, je vais parler du concept de l'hybride. Je veux comprendre l'hybride dans son premier sens, comme quelque chose de mélangé. Premier sens. Et de ce premier sens, je vais dégager une forme que j'applique au récit, ce que j'ai appelé le bi-récit, une forme mixte qui contient une forme mixte qui a un corps et qui a une ombre. Un peu comme nous tous, chacun d'entre nous a un corps et une ombre aussi. Même les chaises ont un corps et une ombre. Bon, alors, de cette forme mixte-là, je vais essayer de la décrire complètement, comment elle se construit. Et quand j'aurai fini de faire ça, dans la dernière part de mon récit, qui sera une toute petite part, forme d'ouverture en fait, j'en viendrai au sens que le colloque a prêté à l'hybridation, à savoir que ce serait quelque chose qui se met en mouvement, qui est plus dans l'élan de la mobilité, et qu'on retrouve dans plusieurs cultures, et qu'on trouve en dehors du récit aussi, parce qu'on trouve dans la dimension anthropologique des peuples africains, d'Afrique noire. Je n'ai pas pu vérifier, et Dieu merci, nous avons des Maghrébins avec nous, c'est très bien, je n'ai pas pu vérifier comment ça se passait au Maghreb, donc je crois que tout à l'heure ils vont nous dire si c'est la même chose. Alors, je suis parti d'une citation de George Steiner dans « Langage et silence ». Il a signalé une situation qui se trouvait surprenante parce que ça faisait allusion au double dans l'un. Et dans ce double-là, il y avait toujours quelque chose de castré, une part qui était castrée. Et voilà sa citation, il disait « Quand il lui prend la fantaisie de se retourner, le critique surprend l'ombre d'un eunuque. » Point, fermez les yeux, mais... Vous savez, les eunuques, c'est les gens qui étaient castrés, qui étaient à côté des empereurs chinois, surtout à l'époque. Deuxième personnage de l'État, personnage très important, mais qui ne pouvait rien faire parce qu'ils étaient eunuques, parce qu'ils étaient castrés. Donc, ils étaient aussi bien importants qu'ils servaient à rien du tout, finalement. Voilà. Donc, j'ai dit que cette image vaut, c'est sûr, c'est vrai pour le critique, mais ça vaut aussi, c'est peut-être valable aussi pour le récit, pour le narrateur, pour l'auteur. Mais je voudrais surtout pour les récits, pour certains types de récits. Des récits dans lesquels précisément il y a une ombre. Et parce qu'il y a une ombre, ça veut dire qu'il y a du double. Il y a un corps, le corps du récit. Il y a une ombre, c'est le récit sans corps. C'est de ça que je voudrais parler. Quelque chose d'omniforme, qui est une apparence surprenante parce que c'est complexe, c'est hybride, c'est impur. C'est comme si le narrateur aussi de la fiction pouvait se retourner et derrière lui verrait peut-être aussi qu'il raconte un récit, mais qu'il y a un autre récit à côté de lui, comme son ombre. Et ça signale son hybridité. Et là, je prends une citation de Rosset qui disait « L'objet et son ombre ne forment qu'un seul corps. La partie ombrageante, l'objet, se confondant avec la partie apparemment ombragée, qui est l'ombre. » Il est vrai que quand on parle d'hybridité en général dans la littérature, pour les textes littéraires, on fait allusion à des corps autres qui n'ont pas la nature sémiotique des textes de ceux qu'ils intègrent. À côté du signifiant textuel, à côté du langage verbal, on a aussi des signifiants iconiques, on a des signifiants sonores, enfin, j'en passe. Il y a plein d'éléments autres qui viennent envahir le texte. Et on dit que le texte est hybride, qu'il est le lieu d'une intermédialité, c'est polyforme, c'est composite, etc. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je vais parler d'une impureté autre. Quand je dis corps pur et corps impur, je pense au sens que les chimistes prêtent à ce terme. Corps pur, ce qui est composé d'une seule espèce. Corps impur, ce qui est composé de plusieurs espèces. Alors, moi, je vais parler d'une seule variété de ces impuretés-là. C'est celle qui a trait au récit, ce que j'appelle le récit hybride, le récit qui est hybride par soi-même. C'est-à-dire que ce récit en question est envahi par une altérité. Et cette altérité qui vient en lui, c'est quelque chose qui a la même nature que lui. C'est quelque chose qui a aussi, qui fait partie de lui. C'est un récit aussi. Sauf que l'un est un corps constitué, c'est une masse physique. On peut la toucher, on peut la voir. Enfin, on peut la toucher en tout cas. Et puis l'autre, c'est une ombre. Quelque chose d'immatériel. Parce que finalement, on a quoi? On a un récit, on a un livrage en main, on a une fiction, on a un récit. Mais en réalité, on a quelque chose de... Le 1 est problématique. Comme tout le chiffre, le nombre 1 d'ailleurs, il est toujours problématique, tout le monde le sait. Le nombre, on dit le nombre, c'est un être. Et en même temps qu'il est être, il a son habit qu'il porte, qui est le chiffre 1. Donc il est complexe. Et c'est aussi la même chose pour cette ontologie du récit-là, l'être du récit qui est double ici. Comme une complexité siamoise, on a deux choses en un. Et chacune des parts revendique son individualité pendant qu'elle revendique aussi son appartenance à la complexité. Bref, il s'agit de double de proximité, comme dit Clément Rosset, de double de seconde espèce, des compléments nécessaires qui sont des attributs obligés. C'est quelque chose qui est obligé d'être avec l'autre. Donc tout ça, ça constitue un seul objet. Alors, c'est dans cette perspective que je vais faire mon analyse. Et je m'appuie sur deux textes. Deux textes. Un qui est très connu, c'est celui d'Amadou Kourouma. C'est le plus connu d'Amadou Kourouma, le plus ancien, qui date maintenant. Donc c'est Les Soleils des Indépendances. Et puis l'autre, c'est celui de Thierno Monenembo, qui est peut-être moins connu, qui s'appelle Les Écailles du Ciel. Voilà deux textes. Pourquoi j'ai choisi ces deux textes? C'est parce que dans ces deux textes, il y a une ombre. Il y a toujours une ombre. Mais les deux textes sont puisés dans une sphère culturelle unique. On se trouve dans l'Afrique de l'Ouest. C'est des mandés. Les mandés dont découleraient les mandingues, les malinkés et autres, et peut-être aussi les peuls qui sont proches des mandés. Alors j'ai pris ces deux textes parce que dans ces deux textes, il y a une ombre. Dès qu'on ouvre la première page, l'ombre est là. Voilà. Elle est là. Et Dès ce premier instant, c'est comme un programme narratif. Ça ouvre un chemin illustratif, figuratif. Il y a une figure d'ombre, mais donc ça fait une figuration après, narratif, qui trace un chemin. Et je l'ai remarqué parce que dès qu'ils s'installent, ils installent la possibilité d'un autre récit. Et cette possibilité reste à l'état de possible, pas d'effectif. Donc, ça veut dire qu'il y a une présence-absence. Or, qui dit présence-absence, se construit dans le trou, le manque, donc dans la métonymie. C'est à partir de la métonymie que je vais commencer mon analyse. Pourquoi? Parce que la métonymie me permet de montrer ce que j'ai appelé ici le bi-récit, qui est un corps brisé sans lettre, unitaire et pluriel, singulier sans lettre. C'est le lieu d'expression d'un corps avec son ombre. Et les deux forment un tout en même temps. Ils sont absents, ils sont présents, liés et déliés en même temps. C'est une métonymie active, finalement, qui fonctionne sur la base du fait qu'ils sont deux, et du fait même qu'ils sont deux, ça veut dire qu'il y a un espacement entre eux, il y a un vide. Et c'est ce vide que je vais étudier en premier lieu. Après ce vide, je vais voir les effets que ce vide a comme effet sur la narration, les effets sur la narration, que je vais traduire en termes de non-lieu. Premièrement, que je vais traduire aussi en termes d'inénarrable, deuxièmement. Je crois que tout le monde a saisi les trois temps. Le premier temps étant le vide, qui n'est pas vide, hein. Donc le vide. Et de ce vide, je vais tirer les effets que ça produit. Le non-lieu, et deuxièmement, l'inénarrable. Alors premièrement, le vide, que j'ai conçu précisément à l'ombre de la métonymie. Alors, qu'est-ce une métonymie? J'emprunte la définition à Jacques Siboni, mais lui-même, il emprunte la chose à Lacan. Et voici ce qu'il dit, je la cite. La métonymie, ce n'est pas la partie pour le tout, comme on le lit communément dans les dictionnaires. C'est en particulier, dans le discours lacanien, l'élision d'une fraction du discours, une partie du discours est élidée, d'une fraction du discours, effectivement prononcé. Cette définition est bien plus précise et elle inclut la précédente. Ainsi, l'exemple classique. Je vois trois voiles dans le port. Ça correspond à la métonymie de « je vois trois bateaux à voile dans le port ». Ça veut dire que dans cette phrase-là, on a enlevé une fraction, on a enlevé le mot « bateau ». Je vois trois voiles dans le port, je vois trois voiles... Trois bateaux à voile dans le port. Je bois un verre, c'est je bois le liquide contenu dans le verre. Donc il y a une partie du discours qui est enlevée, qui n'est pas prononcée. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas prononcé que ce n'est pas là. C'est pourquoi je parle de la présence-absence. Et si on prend, si on s'accorde sur cette définition, on est d'accord qu'il y a une suspension. Et pendant qu'il y a la suspension, il y a aussi en même temps une expansion. L'expansion n'étant pas concrète, mais elle est là. On a effacé, on a fait disparaître du réel du texte une part du texte. Il y a quelque chose qui a disparu. Et quand je prends l'exemple de Amadou Kourouma et de celui de Sousse, je vois aussi qu'il y a une part du récit qui manque. C'est pourquoi j'ai construit mon texte à l'aune de la métonymie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais résumer rapidement. Quand les soleils des indépendants s'ouvrent, un personnage est mort. Il s'appelle Kone Ibrahima. Voici ce que le texte dit. Quand la vie s'échappa de ses restes, les restes de Kone Ibrahima, son ombre se releva, graillonna, s'habilla. Il s'est habillé, c'est une ombre qui s'habille. Et partit par le long chemin pour le lointain pays malinqué pour y faire éclater la funeste nouvelle. Ça veut dire que l'homme va dire quelque chose, va donc conter quelque chose, va raconter quelque chose. On le met déjà dans la posture du narrateur. Il va dire quelque chose. Or, dans ce récit, il y a bien quelqu'un qui raconte une histoire. Mais l'homme s'en va aussi raconter son histoire. De sorte qu'on voit les deux narrateurs côte à côte. D'ailleurs, pendant que Kone s'en va raconter son histoire, le narrateur du récit manifeste, l'autre récit pouvant être le récit latent, dans ce récit manifeste, le narrateur dit... Parce qu'on a vu que Kone, l'homme a marché, allait dire à des gens, a parlé. Une homme, ça ne marche pas normalement. Il va dire ça. Et le narrateur nous dit, vous paraissez sceptique. Il parle à nous, lecteurs. Hein. Eh bien, moi, je vous le jure, j'ajoute, si le défunt était de Casse-Forgeron, si l'on était dans l'ère des indépendances, je vous le jure, etc. Donc, il y a un narrateur qui parle là, qui raconte son histoire, et puis, etc. Bref. Et il y a deux occurrences comme ça. Un, Fama. Le personnage principal va assister aux funérailles de Kone. Et pendant qu'il y a les funérailles, l'ombre de Kone est là, mais elle est invisible aux yeux du maléqué commun. Mais Fama, lui, le voit. Et Fama dit, l'ombre du décédé, il espère en fait que l'ombre du décédé allait transmettre au man que sous les soleils des indépendances, les malinqués honnissaient et même giflaient leur prince. C'est Fama le prince. Fama souffre de sa situation, il espère que l'homme va raconter au man, aux ancêtres, sa situation difficile sur terre. Ça veut dire qu'il dit au man, il donne une fonction de narrateur au man. C'est un récit à venir, un récit futur. À côté de ça, il y a Bala, un autre personnage, qui dit à Fama, donc si je mourais avant ton retour, je dirais beaucoup de bien de toi à tes aïeux sous terre. Je serai pour toi un man très favorable. Lui aussi va conter une histoire là-bas. Ça veut dire que ce soit Fama ou Bama, les deux se préoccupent de ce qui sera compté ailleurs et pas ici. De l'avenir du texte. Ils quittent le réel de vie, le réel de vie et donc le réel du récit pour passer à un autre récit. C'est pourquoi je parle de métonymie, parce qu'on se situe précisément dans le désir, dans l'attente de ce qui va venir. Et parce que précisément cette attente repose sur ce que Lacan appelle le manque à être au contact. Il manque à être au contact de la chose, donc il se situe dans le désir de cette chose à venir. Je saute plein de passages, mais c'est un récit réel, le récit futur est réel. Simplement, nous, on ne peut pas le lire. Et le commun malinqué ne peut pas le lire, ce n'est pas adressé à nous. C'est l'ombre du récit manifeste, qui est à côté du texte. Mais c'est une ombre qui est nécessaire au texte. On peut pas, nous, personne d'entre nous ne peut se passer de son ombre. Il est évident que si on voyait notre ombre sans nous, ça veut dire qu'on serait mort. Et si on nous voit nous-mêmes aussi sans notre ombre, ça veut dire qu'on est un monstre. C'est ce que ça veut dire normalement. Voilà, donc c'est la même chose pour ce récit-là. Et on voit bien qu'il y a un pont entre les deux mondes. Et d'ailleurs, dans les écailles du ciel de Tierno Monenembo, voici ce que le personnage dit, un personnage mort, Wango le griot qui est mort, son ombre revient et qui parle à quelqu'un, qui donne une commission, qui dit « Aujourd'hui que la terre perd pied, que les hommes se sont fait sourds et aveugles, les morts n'ont plus à qui parler. Où sont les oreilles adéquates? Nous les voyons bien. Eux ne nous voient plus. La fantasmagorie terrestre a accaparé leur regard. L'amnésie a été leur sens. Nous qui dormons sous la terre, qui vivons avec elle, nous savons encore sentir, etc. » Voilà. Donc les morts ont leur histoire à raconter, il n'y a personne pour les écouter. Et justement, dans la fiction de Monenembo, quand on ouvre aussi les premières pages, il y a aussi une ombre. Il y a une ombre, c'est celle de cousin Samba qui marche, et puis Bandugu le voit, et Bandugu dit, il avait cessé de l'être un soir fatidique, quand par un de ses miracles nocturnes, le chemin lui offrit une ombre. Il suivit le chemin et l'ombre. En fait, il suivit l'ombre, le chemin n'était inscrit que dans sa tête. Il y a aussi une ombre au départ, cette ombre va se diffuser dans tout le texte après. L'ombre inquiète tout le monde là-bas, tout le monde la voit. Mais ce qui inquiète, ce qui est important, ce n'est pas l'inquiétude que ça provoque. Ce qui est intéressant, c'est que la présence de l'ombre suscite une question qui va engendrer un autre récit. D'où vient l'ombre? Quelle est son histoire? Alors que vous voyez, chez Fama, c'était une histoire à venir, projetée devant. Ici, c'est une histoire à rebours, en arrière. Un peu comme dans les récits policiers. Quelqu'un est mort au début, et si on doit raconter cette histoire, on est obligé de raconter non seulement le récit de l'enquête, mais on est aussi obligé de raconter l'histoire du meurtre. Donc, deux récits se superposent. Ici, on voit l'ombre, ça veut dire qu'on est obligé de savoir d'où elle vient. Un autre récit. Mais ça, c'est les ombres seules qui le sauront. Etc. Donc, Wango vient, il s'adresse à un personnage qui souhaite être le relais entre le séjour des morts et le séjour des vivants. Et il lui dit, quant à toi, tu vivras désormais à la frontière du visible et de l'invisible. Tu seras le trait d'union. Tu porteras au pays le message que je viens de te donner. Ça veut dire qu'eux, ils ont un monde, ils racontent ça ici. Le rêve t'en apportera les signes et dans le rêve des hommes, tu le transcriras. Tu vas traduire ce rêve-là. Donc, l'ombre est une virtualité de récit. Le virtuel n'est pas le contraire du réel. Le virtuel, c'est le réel en puissance d'être. Donc, c'est quelque chose qui va être, etc. C'est tout ça que j'ai appelé finalement le vide, parce que finalement, cet ombre s'est réduit, tous les ombres dont on a parlé là. On a là parlé en quoi? On n'a pas parlé en termes de jambes, de corps, etc. On n'a parlé que d'une partie du corps, c'est la voix, la bouche. Parce qu'ils sont des voix narratives. On les a réduits à la bouche, simplement, ce sont des voix narratives. Et ça instruit donc une espèce de vide oral qui va s'instituer. Voici le vide. Quels sont ses effets sur la narration? Premier effet, j'ai parlé du non-lieu. Alors, qu'est-ce qu'un non-lieu? Chez les juristes, en droit, on nous dit que c'est une décision juridique par laquelle on déclare qu'il n'y a pas de lieu de poursuivre, de continuer les poursuites. Si on l'applique à nos textes, on pourrait dire aussi que c'est pas une décision, mais c'est le fait que il n'y a pas lieu de poursuivre la lecture. Parce qu'il n'y a rien derrière. C'est ce que ça voudrait dire. Mais je veux quand même voir trois dimensions du non-lieu, que je vais rapidement citer parce qu'on ne pourra pas entrer dans tout le détail. Le non-lieu se situe d'abord au niveau du verbe, ce que j'appelle le non-lieu verbal. Deuxièmement, le non-lieu de l'acte, l'action, il n'y a pas d'action. Et puis, troisièmement, le non-lieu spatial. Voici les trois formes de non-lieu, les trois types, si vous voulez, catégories de non-lieu que j'ai identifiées dans ce type de récit. Alors, si vous voyez bien, ça veut dire que dans ce type de récit, qui est à venir, qui est virtuel, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de mot. Ce que, comment ça s'appelle, l'homme de Coné va raconter. Ce n'est pas constitué de mots parce que ça n'existe pas encore. Même si ça a une existence réelle, virtuelle. Donc il n'y a pas de mots, il n'y a rien dedans. Le discours n'est pas là. Il y a un vide textuel, si vous voulez, du fait que ce message-là reste de l'ordre de l'attendu, il n'est pas de l'ordre du réel en tant que tel. Si je prends le cas dans les écailles du ciel, le narrateur attitré, enfin le personnage qui s'appelle Kouloun, qui se dit messager du quartier, donc narrateur, nous dit, en parlant de son quartier, là où tous les événements se passent, il nous dit, il faudra bientôt ou tard restituer la parole à Lady Bondi. Lady Bondi, c'est le quartier en question. Écoutez les battements de son cœur d'argile, etc., mais pas pour les besoins de l'archive. Vous voyez qu'on ne peut pas consigner ce qui est là. Car à Lady Bondi, rien ne mérite d'être conservé. Tout y pourrit avant même d'exister, peut-être d'appréhender, de voir, etc. Ça veut dire que ce qui se passe dans le monde visible n'est pas intéressant pour ces personnages-là. C'est la partie inutile du texte. Bizarrement, c'est la partie la plus grande, mais c'est la partie la moins importante pour les personnages. Ce qui compte, c'est l'ailleurs. C'est l'autre part du récit qui compte pour eux. Ils s'inscrivent, ils s'installent là-bas. C'est comme quand Fama est à ses funérailles. Tout se passe à Togobala. Mais c'est comme si ça se passait ailleurs. Voilà. Hein? Donc c'est ça qui compte. Tout se passe ici, ça n'intéresse personne. Vous voyez Fama, il passe son temps à dormir dans sa chaise. Ça n'intéresse pas du tout. À la fin du récit, on lui propose d'avoir de l'argent et tout. Il répond même pas, il ouvre pas la bouche. Rien. Tout est projeté ailleurs. C'est cet autre monde qui l'est satisfait. Cette autre part du récit. Deuxièmement, le non-lieu de l'acte. Alors, on a vu qu'il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de mot, il n'y a pas d'acte non plus, il n'y a pas d'action. Il n'y a rien du tout. C'est des récits de pensée, ce n'est pas des récits d'action. Fama est projeté dans son imaginaire, il pense, mais il n'agit pas. Il n'y a rien, il n'y a aucun rien du tout. Et on se trouve au niveau perceptif, mais perceptif imaginaire, simplement. Je vais résumer ça comme ça. Le non-lieu spatial, c'est le fait que finalement, ça ne se déroule nulle part. On nous parle du pays des mannes qui est sous terre. Il y a les deux lieux du drame, le sous terre et puis la terre. On nous parle aussi du lieu terrestre. Et on nous apprend dans les soleils des indépendances qu'au 40e jour des funérailles, là, il y a le 40e jour qu'on fête parce que c'est ce jour-là que les morts reçoivent ceux qui arrivent, les autres morts qui arrivent. On ne nous dit pas où ils les reçoivent. Ça se passe où? Rien du tout. Du coup, on se trouve dans une situation où ce qui se passe ici, on devrait dire que quelque chose se passe ici et quelque chose se passe là-bas, mais on ne peut pas dire ça. Parce que Fama qui est ici se trouve en même temps être l'autre côté. Mais cet autre côté, je dirais, c'est comme s'il y avait un ici et puis un ici. Il n'y a pas un ici et un là-bas. D'ailleurs, je reprends la citation de Misraï qui dit « aussi exceptionnel du temps ». Parce que là, on est vraiment dans la projection du temps. Ce n'est plus dans l'espace euclidien, ce n'est pas le temps tel qu'on le conçoit, mais c'est vraiment dans l'exception du temps. L'ici sera là-bas et le là-bas sera ici. Les deux seront dans l'évidence immédiate de l'être. Il y a deux ici. Il n'y a pas un ici, hein, il n'y a pas un là-bas. Il y a l'ici terrestre, il y a l'ici truc, etc. Donc, il est projeté dans ces deux mondes en même temps. Il y a beaucoup de citations, mais ce n'est peut-être pas la peine de le dire. Et c'est tira. Dire donc qu'il y a un monde irréel et puis un monde réel, en fait. Mais un monde virtuel et puis un monde, etc. Après, donc, j'en viens à l'inénarrable, qui est le troisième effet. Je viens d'admettre avec vous, donc, peut-être que vous n'avez pas admis avec moi, mais enfin, moi, je viens d'admettre qu'il y avait un récit d'ombre et puis un récit d'ombre qui tenait lieu de non-lieu du discours, non-lieu de l'action, non-lieu de l'espace, etc. Du coup, ça veut dire que tout ça... Il n'y a rien qui peut se compter. Rien n'est à compter. Alors, comme rien n'est à compter, je dirais que tout ça se passe finalement dans la possibilité imaginaire. Et cette possibilité imaginaire nous fait passer du registre de la métonymie au registre de la métaphore. Parce que précisément, ces personnages fonctionnent sur la base de l'inconscient lacanien, dont il dit que ça fonctionne sur l'inconscient lacanien qui serait structuré comme un langage. Mais ici, c'est l'inconscient collectif. Ces gens sont des mandés. Et dans leur imaginaire inconscient collectif, il y a cette possibilité de s'arrimer à d'autres esprits, des substitutions possibles. Et quand il parle de substitution ici, on entre dans l'ordre de la métaphore. Donc finalement, c'est ce qui a fait que nous, on n'a même pas eu droit à cette autre part du récit. On est frustré quelque part. On ne peut pas le dire, c'est un récit, mais c'est le récit le plus important. On nous a donné que ce reste de récit où Fama s'ennuie. Où on s'ennuie aussi avec lui, on souffre avec lui de ses problèmes, etc. Alors, ce que je constate, c'est que je dois bien avouer que le lecteur que nous sommes serait quand même bien avisé aussi, je pense, de ne point s'inquiéter, de tant se déporter, voire de tant être déporté contre sans son gré sur le champ de l'inconscient et de la symbolisation. En fait, la promesse figurale était impossible. On ne peut pas figurer cette figure morte là. L'ombre ne peut pas se figurer. Une ombre, ça se voit, mais ça ne se touche pas. On ne peut pas la toucher. Donc, du coup, on ne pouvait pas la figurer. Donc, ce qu'il fallait, il leur fallait... ces fictions ne pouvaient pas vraiment porter leur ombre. Elles ne pouvaient pas les porter. Il leur fallait les déporter, ne pas en faire des images calques, des ombres portées, mais ce sont plutôt des ombres déportées, pour changer la figure initiale, etc. On est entre manifestation et latence d'être. Et là, je viens au deuxième sens auquel le colloque nous invite, mais en deux mots, peut-être, je dirais peut-être trois ou quatre mots quand même. Mais donc, c'est le sens de l'hybridation auquel le colloque nous invite, c'est-à-dire une forme de tension qui nous entraîne dans le déplacement, le mouvement. Et je constate qu'effectivement, j'ai pris cette forme de récit-là dans la sphère Mandé, d'Afrique de l'Ouest, et c'est Kourma est très proche, dans la partie de la Côte d'Ivoire, est très proche de la partie Guinée. Hein. C'est presque collé, en fait, c'est voisin. Donc, c'est la même sphère. Mais on constate que ça se passe ailleurs. Mais pas seulement que dans le récit. C'est en cela qu'il y a hybridation, non seulement par rapport au peuple, aux différents peuples, mais aussi à hybridation par rapport aux gens. On n'est plus dans la littérature, mais dans la vie même. Et je prendrai un seul exemple. Ça me permettra de finir là-dessus. Un exemple que je connais bien, parce que moi-même, je suis de la sphère qu'on appelle celle des Akans, en Côte d'Ivoire. Alors, c'est les Akans qu'on trouve en Côte d'Ivoire, qu'on trouve au Togo, au Ghana, je sais pas jusqu'à où, hein, jusqu'au Bénin, je pense, voilà, etc. Il y a quelque chose qui se passe singulièrement, enfin, c'est pas singulier, quelque chose qui se passe. Quand on perd quelqu'un, dans les villages, quand on perd quelqu'un, quand il y a un décédé, la nuit, au moment de se coucher, sans doute le père ou la mère, quelqu'un qui est âgé, vient déposer devant le seuil de la porte là un bol de riz ou d'igname, je ne sais pas quoi, enfin de repas en tout cas, un bol avec un peu de repas et puis un peu d'eau. Il dépose devant la porte le soir, la nuit, et on va se coucher. Qu'est-ce qu'ils espèrent? Que l'ombre du mort viendra. Et si elle revient à la maison, il faudra bien qu'elle mange quelque chose, qu'elle boive quelque chose. Et le matin, ils viennent vérifier. En général, le plat est vide. L'eau aussi est vide. Moi, personnellement, je pense que ce sont les chiens errants et les chats qui ont mangé. C'est ce que je pense. Mais ce n'est pas grave, ils se satisfont quand même, ils sont contents, parce que pour eux, l'ombre est venue prendre son repas. Mais qu'est-ce que ça instaure comme possibilité? Deux choses. Si l'ombre est venue, c'est qu'elle est venue nous donner, elle est venue nous donner les nouvelles du là-bas. Donc elle nous fait le récit de là-bas, de sa vie là-bas, et le message des ancêtres. C'est récit 1. Deuxièmement, si cet homme est venu jusqu'à nous, elle nous a vus, elle a vu dans quoi nous vivons, dans quelles conditions nous vivons, notre état de tristesse, elle va compter au man comment nous sommes ici, récit 2. C'est ainsi que je fais la jonction pour faire une forme d'hybridation sur laquelle je voudrais bien m'arrêter avec votre permission. Voilà, merci. Merci.